Aragoniste. La première demande, lorsqu'on a démarré ce parc, c'était celle des cultivateurs et des éleveurs. On a fait une réunion publique avec eux à Torrent, et ça a été très intéressant. On s'est aperçu qu'ils étaient quand même les plus demandeurs. Mais les vrais problèmes qui se posent pour eux, ils nous l'ont dit, des cultivateurs en ont trop, et les amis du parc en ont beaucoup. Le gros problème qui nous a occupé à une deuxième réunion avec eux, on a fait à Saint-Antonin, on a fait à Andorre aussi, on a parlé beaucoup, c'est les sols, c'est le droit des sols, c'est-à-dire les acquisitions foncières. À quel prix? Comment peuvent-ils s'installer compte tenu des prix de vente de terrain qui ne sont pas aussi élevés que sur le littoral, mais qui sont inabordables? Et ça, c'est une vraie question. Je ne sais pas comment on va y parvenir, mais en tout cas, on est tous d'accord pour dire qu'il nous faut absolument des cultivateurs dans ce pays. C'est la première activité, il nous faut des éleveurs. Ce sera un des challenges à mettre en place sur ce parc. Mais comme l'a dit Marie-Denis, c'est pas nous, c'est avec vous, c'est tous ensemble qu'on va pouvoir le faire. Et ce sera le plus difficile.
Monsieur Lucas. D'abord parce que je suis obligé de partir. Et parce que j'ai une autre réunion et je serai à celle de Vence la semaine prochaine. Et je voulais simplement dire que là, je parlais surtout comme conseiller général, vice-président chargé de l'écologie et du développement durable. Et il est bien évident, tant pour moi que pour le conseil général, c'est qu'il ne s'agit en aucune manière de figer les choses, et comme l'a dit Marc Denis à l'instant, comme André Askiri, de mettre sous cloche. Mais ce que l'on sait, c'est que si on ne fait rien sur ces territoires, là, ça sera la catastrophe. Donc le problème n'est pas de savoir si on va pondre quelque chose qui sera un handicap, une difficulté, c'est qu'on sait que si on ne fait rien, c'est la mort de ce territoire. Tous les autres se seront organisés, tous les autres auront une logique de développement durable, et nous aurons toutes les catastrophes, c'est-à-dire la désertification d'un côté et le remplissage malgré tout, avec le mitage, parce que c'est déjà en cours. Donc je crois que c'est très important, c'est une opportunité formidable. On a d'ailleurs que trop tardé pour des tas d'interférences sur lesquelles il n'y a plus à s'attarder. Moi, je me réjouis que nous allions tous ensemble, parce que nous avons des sensibilités, des interprétations sur des tas de sujets différents, mais on est bien d'accord sur le cheminement qui est à mener, c'est-à-dire avoir une logique du respect d'un environnement que nous voulons protéger, mais une protection qui ne veut pas dire fossilisation, une protection qui permette justement le maintien, le développement, les équilibres. Et ça n'est pas nous seulement, c'est justement toutes les réunions qui vont se faire, les groupes de travail qui vont se mettre en place, où vous devez être présents pour nous faire part de vos préoccupations, de vos difficultés, des mauvais exemples qui peuvent être effectivement pris à l'extérieur, et donc nous permettre d'aboutir à un vrai projet qui soit celui de tous. Et donc on est au début là de cette information. Le fait qu'il y ait cette information publique d'ailleurs est le signe que rien ne se fait planquer dans des arrière-cours, au contraire c'est sur la table, et donc la réunion de grâce sera importante, les mises en place des groupes thématiques, les comptes rendus, les débats, les échanges, les contradictions, les affrontements peut-être, peu importe, mais c'est vraiment ce qui répond à l'intérêt de notre département. Voilà pourquoi le Conseil général des Alpes-Maritimes suit avec deux de ses conseillers généraux, mais en particulier Thierry Guéguen, qui est vraiment en pointe dans ce domaine, hein, c'est le conseiller général du canton de Saint-Aubin, et puis Jean-Pierre Mascarelli, tout naturellement, que je n'oublie pas, mais je sais combien Thierry Guéguen est ardent en la matière, et donc on ne fera pas n'importe quoi, n'importe comment. Si c'était le cas, c'est parce que vous n'y auriez pas pris toute votre place, mais en tout cas nous on est bien d'accord ici pour éviter les deux écueils. Voilà ce que je voulais vous dire, et vous dire combien au niveau du département nous suivons et nous nous réjouissons avec la région qu'on puisse mener à terme ce projet.
Pour rebondir sur la question, enfin sur aussi une partie de la réponse, on avait fait des études il y a de cela quelques années au niveau de la région sur tout le territoire régional. Et on voyait la disparition progressive des terres agricoles. Et particulièrement dans les Alpes-Maritimes, en, je crois, 6 ans, si on regardait la courbe telle qu'elle s'était déroulée ces dernières années, il y avait disparition, enfin, s'il restait epsilon, une anecdote, des terres agricoles. C'est ça qui est devant nous. Parallèlement, on voyait par contre augmenter les zones dites boisées, naturelles. Il y avait derrière fermeture des milieux, et on a comme ça, ce que vient de dire Lionel Lucas, des territoires qui se désertifient, et où les agriculteurs eux-mêmes ne peuvent plus entretenir, ne peuvent plus jouer leur rôle. C'est suicidaire. C'est suicidaire pour tout le monde.
Si tu permets, hein, Marc, sur ce sujet, le territoire que vous avez vu, hein, et qui est celui de ce parc naturel régional, c'était un des plus riches de ce département des Alpes-Maritimes. Et aujourd'hui, parce qu'on ne s'en est pas soucié suffisamment, ben, il est pratiquement condamné à désertification. Parce que si vous regardez les petits villages à Garce,
on y habite.
Ben, ça représente combien d'habitants aujourd'hui ?
25.
Alors que c'était des lieux où un certain nombre d'activités, agro-pastoralisme ou autres activités d'ailleurs, en faisaient des lieux économiques importants pour le département des Alpes-Maritimes. Des lieux de passage d'ailleurs, hein, parce que aussi des grands lieux de communication entre les départements et les deux pays, puisque nous sommes pratiquement à la frontière avec le royaume de Sardaigne. C'est pour dire que repartir sur une logique patrimoniale, et pas patrimoniale au sens où on va tout figer, où on va être craintif, mais une logique patrimoniale pour réinvestir sur ces territoires, hein, pendant que je parlais, je me disais en même temps, ce territoire, il était à la fois agricole et industriel. C'est quand même là que s'est fondée la chimie de toute la parfumerie de Grasse. Hein, c'était de la chimie fine, hein, ce qui se passait sur Grasse. Et cette chimie fine, elle n'existait que parce qu'en amont, sur les territoires dont on parle, ben, il y avait un travail économique profond. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut... C'est sur ce type de raisonnement qu'il faut qu'on reparte. Et tu disais les circuits courts, oui. Si on regarde l'histoire, elle nous a montré que c'est les circuits courts qui ont fait la richesse de cet espace. Et donc, voyons comment on peut repartir sur des logiques qui sont purement de développement durable. Et développement durable, ça suppose du développement. Et le développement, ça suppose qu'on prenne en compte l'humain. Et qu'on ne prenne pas simplement en cause l'humain pour le préserver, mais pour lui donner de quoi se réinvestir dans le territoire que nous sommes en train de présenter ce soir. Et si on lui demande de se réinvestir, c'est aussi pour qu'il joue un rôle dans ce réinvestissement que propose le parc naturel régional. Et donc, surtout, n'exclure aucune catégorie. Ne pas exclure aucun des villages, parce qu'il y a aussi ce risque, hein, des déséquilibres entre des zones plus ou moins urbanisées, des zones qui sont aujourd'hui, qui pèsent moins du point de vue démographique. Donc, c'est très compliqué ce qui est en train de se construire. Mais je crois que si on ne se lance pas, je partage tout à fait ce qui a été dit jusqu'à maintenant, si on ne se lance pas dans cette opération qui a pour objectif de redonner à ces territoires toute la valeur qu'elles ont gardée pendant des siècles avant de dépérir, ben je crois que là on fait une grave erreur. On fait une grave erreur humaine et d'aménagement du territoire. Et je pense que tout le monde a intérêt à s'y investir. Un petit mot sur le découpage sur lequel tout à l'heure on posait beaucoup de questions. Je crois que là-dessus non plus il ne faut pas avoir peur de l'endroit où sera la frontière. Parce que s'il y a une partie d'une commune qui est dans le périmètre et pas la totalité de la commune, ben il est bien évident que toute la valorisation que portera le parc, c'est l'entièreté de la commune qui le portera. Et c'est pas parce que la frontière elle passe en dessous de Carrosse que s'il se passe des choses intelligentes qui peuvent dynamiser le parc naturel régional dans la zone industrielle de Carrosse-de-Broye, eh bien il faudra s'en priver. Au contraire, hein, dans la logique de ce que j'ai essayé de décrire avec les parfumeurs et tout ce que ça a permis comme développement dans ce pays, eh bien, il faut aussi utiliser ce qui aujourd'hui n'est pas dans le découpage du parc et qui constitue une richesse économique intéressante pour que on puisse dynamiser l'espace des Préalpes, du parc naturel que des Préalpes d'Azur. Et je crois que on doit avoir évidemment cette vision patrimoniale de préserver le terrain, de préserver les arbres, de préserver les rivières et les vallons obscurs. Mais en même temps, Je crois que ce qu'on doit préserver, c'est cet équilibre de vie et de redonner de la vie à ce territoire.